La Duchesse de Hamptonshire, de Thomas Hardy. Il y a quelque 50 ans, celui qui était alors le duc de Hamptonshire, le 5e du nom, était incontestablement seigneur et maître dans son comté, et particulièrement dans les environs de Batton. Il descendait de la grande et ancienne famille des Saxelby, dont, avant leur anoblissement, la ligne mâle avait compté de nombreuses célébrités dans la chevalerie et le clergé. Un historien local zélé aurait occupé toute une après-midi à déchiffrer les nombreuses effigies et devises gravées en l'honneur de leur mémoire sur les plaques d'airain, les tablettes, les pierres tumulaires de la nef de l'église paroissiale. Quant au duc, il n'appréciait que peu l'attrait de ses anciennes chroniques de pierre et de métal, même de celles concernant ses propres origines. Il leur préférait de beaucoup les divertissements peu relevés et quelque peu désuets qu'il avait sous la main. C'était un homme qui pouvait à l'occasion clore d'un bon coup de poing la bouche d'un de ses vassaux et ergotait d'un ton bourru avec le curé sur les mérites d'un combat de coq ou d'une course de taureau. Son aspect personnel était quelque peu impressionnant. Il présentait le teint cuivré d'un tronc de hêtre. Sa carcasse était robuste, bien que légèrement courbée. Il avait une grande bouche. Il tenait à la main un bout d'arbre rugueux en guise de canne de promenade, sauf les jours où il se munissait d'une serpette pour couper les chardons sur la route. Son château était situé au centre d'un parc, encadré partout sauf au sud, d'ormes touffues, et quand la lune brillait, la pierre éblouissante de la façade, sur un rideau de rameaux épais, apparaissait, vue de la grande route éloignée, comme une large tache blanche sur un fond noir. Quoique dénommé château, la demeure n'était que peu fortifiée, et avait été construite avec un souci plus grand de l'aménagement intérieur que telle forteresse crevassée méritant proprement le nom de château. C'était un édifice à créneaux posé comme un échiquier sur le sol, orné de prétendus bastions et mâchicoulis, qui masquaient un troupeau de cheminées également crénelées. Dès l'heure vermeille du matin, quand les serviteurs glissaient dans les corridors comme des fantômes, lorsque les rayons du soleil perçant à travers les volets animaient les regards et les sourires des portraits d'ancêtres, 11 ou 15 minces filets de fumée bleue s'élançaient du sommet des cheminées, étalant leurs nappes légères et flottantes dans le ciel. Tout autour de là s'étendaient 10 000 acres de terrain excellent, riches, soignés, semés de pelouses et de clairières, visibles des fenêtres du château et aboutissant à des terres labourables dont les séparaient des yeux trop curieux un ingénieux système de plantations. À un certain degré au-dessous du seigneur de ces lieux venait le second personnage de la paroisse, le pasteur, l'honorable et révérend Mr. Holborn, un veuf au port bien raide et bien sévère pour un ecclésiastique, avec son impeccable col blanc, ses cheveux gris bien lissés. Sa figure aux lignes régulières n'offrait rien de ces traits sympathiques qui permettent si souvent au pasteur de faire tant de bien à son troupeau. Le dernier de la série était le vicaire, Mr. Alwyn Hill. C'était un charmant jeune diacre, aux cheveux bouclés, aux yeux rêveurs, si rêveurs qu'à les regarder on se sentait comme monter et nager dans les flocons d'un nuage d'été. Le teint d'une fleur et sans barbe au menton. Âgé alors de près de 25 ans, il n'en paraissait pas beaucoup plus de 19. Le pasteur avait une fille nommée Emmeline, douce et simple nature, au point que tout le pays avait découvert, apprécié et vanté sa beauté avant qu'elle-même l'eût soupçonnée. Elle avait toujours vécu dans une solitude relative. La rencontre d'un homme la troublait et la mettait en confusion. Quand un étranger venait rendre visite à son père, elle se sauvait dans le verger jusqu'à ce qu'il fût parti. Elle se traitait elle-même de ridicule, mais ne pouvait vaincre sa timidité. Sa vertu ne puisait pas sa racine dans sa force de résistance. Elle était le simple résultat de son dégoût instinctif pour tout ce qu'est le mal, de même que les morceaux de viande n'agréent pas à l'herbivore. Ses craintes physiques, ses bonnes manières et son esprit avaient nettement depuis quelque temps fait impression sur l'antinous ecclésiastique. Il en fut de même pour le duc. Scandaleusement ignorant de toute gracieuseté de langage, affichant même des manières brutales vis-à-vis du sexe aimable, enfin nullement fait pour une lady, il prit feu de manière vraiment terrible lors d'une brusque rencontre avec Emmeline un peu avant qu'elle eût atteint ses 17 ans. La chose se passa une après-midi au coin d'un bosquet situé entre le château et le presbytère. Le duc était debout surveillant l'issue d'une topinière, quand la jolie fille passa à côté de lui, sans coiffe ni chapeau, dans la pleine lumière du soleil. Le duc rentra chez lui comme un homme qui a eu une vision. Il grimpa dans sa galerie de tableaux du château et pendant quelque temps passa en revue toutes les anciennes beautés de sa famille. Il n'avait jamais soupçonné le rôle important joué par l'espèce féminine dans l'évolution de la race des Saxelbaï. Il dîna seul, but généreusement et se jura lui-même qu'Emmeline Holborn serait à lui. Malheureusement, une douce et secrète intelligence s'était déjà nouée entre le vicaire et la jeune fille depuis un certain temps. Les incidents de cet attachement réciproque ne furent révélés ni alors ni jamais, mais il fut nettement désapprouvé par le père. La procédure fut prompte, sévère, rigide, inexorable. Le vicaire disparut presque soudainement de la paroisse, après un échange entre le recteur et lui, un soir dans le jardin, de mots pénibles et amers auxquels se mêlaient, comme des cris de mourants dans le fracas d'une bataille, les sanglots suppliants d'une femme. Peu de temps après, on annonçait que le mariage du duc et de Miss Holborn serait célébré à une date étonnamment rapprochée. Le jour des noces arriva. Le jour des noces passa. Emmeline était duchesse. Personne ne paraissait pendant cette journée penser aux soupirants évincés, ou ceux qui songeaient à lui n'en témoignaient rien. Les petites gens étaient plutôt portés à échanger quelques joyeux badinages sur le compte de l'auguste seigneur et son épouse. Les autres se montraient corrects et aimables dans leurs propos selon leur caractère et leur sexe. Mais le soir, les sonneurs du beffroi dont Halloween était le favori soulagèrent un peu leur cœur en parlant de leur jeune et charmant compagnon et des regrets possibles de la femme qu'il avait aimée. « Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose de triste là-dedans ? » dit le troisième sonneur en s'essuyant la face. « Je sais bien, moi, où elle aurait voulu arrêter ses chevaux pour la nuit après leur journée faite. Vous le sauriez si vous pouviez dire où se trouve aujourd'hui notre jeune Mr. Hill, ce que tout le monde ignore dans la paroisse. Excepté la lady pour laquelle a été sonné ce triple carillon d'honneur. » Certes, ces bons villageois étaient loin en ce moment de mesurer l'étendue de la misère d'Emmeline. Ceux-là même qui l'approchaient de plus près ne la soupçonnaient pas, tant elle dissimulait jalousement son désespoir. Mais les mariés ne furent pas depuis longtemps dans leur château que le chagrin de la jeune femme devint nettement visible. Ses servantes, ses serviteurs disaient qu'elle passait son temps le front appuyé aux boiseries à verser des pleurs brûlants et inexplicables, dans un moment où toute femme sensée n'a Dieu que pour les robes que contiennent ses armoires. Elle priait avec ferveur dans le grand banc d'œuvre, où elle se glissait comme une obscure souris dans un cellier. Elle priait, au lieu de compter les bagues de ses doigts, de s'endormir, de se distraire en riant silencieusement des vieilles caricatures de la congrégation, comme l'avaient toujours fait dans leur temps les anciennes beautés de la famille. Elle ne paraissait pas plus se soucier de l'argent et du cristal dans lesquels elle mangeait et buvait que d'un service de vaisselle en terre cuite. En réalité, sa tête était ailleurs, et c'est bien ce qui semblait si odieux au duc, son mari. Il avait d'abord essayé de railler ses folles pensées pour ce jeune clerc au lait baptisé. Mais le temps donna plus de netteté à ses inquiétudes. Il ne la croyait pas lorsqu'elle l'assurait qu'elle n'avait pas communiqué avec son ancien soupirant, ni lui avec elle, depuis leur séparation sous les yeux de son père. Il en résultait d'étranges scènes entre les époux qu'il est inutile de détailler, mais qui aboutirent promptement à la catastrophe. 2 mois environ après le mariage, dans l'obscurité et le calme du soir, un homme franchissait la porte de l'avenue du parc conduisant de la grande route au manoir. Arrivé à 200 yards des murs, il abandonna le gravier de l'allée pour se rapprocher de l'habitation par un sentier circulaire qui aboutissait à un bosquet. Là, il attendit. Quelques minutes après, l'heure sonnait à l'horloge du château, et une forme féminine pénétrait dans ce recoin écarté venant de la direction opposée. Là, les deux formes indistinctes se rejoignirent comme le fond en roulant sur une feuille de gouttes de rosée. Puis ils demeurèrent face à face, la jeune femme baissant les yeux. « Emmeline, vous m'avez supplié de venir et me voici. Que le ciel me pardonne !» dit l'homme d'une voix rauque. « Vous allez émigrer, Halloween, » dit-elle d'une voix entrecoupée. « Je l'ai entendu dire. Vous vous embarquez à Plymouth dans 3 jours sur la Western Glory. » « Oui, je ne puis vivre plus longtemps en Angleterre. « Vivre ici, c'est la mort pour moi, » dit-il. « Ma vie est encore bien pire que la mort. »« La mort ne m'aurait pas amené à cette extrémité. Écoutez, Halloween, je vous ai fait venir pour vous supplier de me laisser partir avec vous, ou au moins demeurer près de vous, tout plutôt que de rester ici.
« Pour partir avec moi ?»
dit-il d'une voix frémissante.
« Oui, oui, sous votre conduite, sous votre protection, n'importe où.
Ne vous épouvantez pas. Vous devez être indulgent pour celle qui vous implore. Il a fallu sa cruauté pour me réduire à cela.
J'aurais supporté mon chagrin en silence si je n'avais été martyrisé, mais il me torture et je serai bientôt au tombeau si je ne puis me sauver d'ici. »
Comme il demandait pourquoi son mari la torturait, la duchesse lui répondit « C'est par jalousie. Il s'acharne à m'arracher des aveux en ce qui vous concerne et ne veut pas croire que je n'ai pas communiqué avec vous depuis que mon père a scellé nos fiançailles et j'ai été réduite à dire comme lui. »
Le pauvre vicaire dit que c'était bien le pire de tout.
« Il ne vous a pas personnellement maltraité ? » demanda-t-il.
« Si, » murmura-t-elle.
« Comment cela ?»
Elle jeta des regards craintifs autour d'elle et dit en sanglotant « Dans son obstination à me faire confesser des choses que je n'ai jamais faites, il me fait des menaces que je n'ose répéter pour me terrifier et me réduire à un tel état de faiblesse que je dois m'attendre à tout. J'ai résolu de vous écrire, n'ayant pas d'autre ami que vous. »
Elle ajouta avec une lugubre ironie
« Il me semblait ainsi donner quelque fondement à sa croyance pour ne pas démentir son soupçon.
Voulez-vous réellement dire, Emmeline, que vous pensez vous enfuir avec moi ?
Pouvez-vous donc supposer que j'agirais de la sorte, sans l'extrémité à laquelle je suis réduite ?»
Il resta silencieux pendant une ou deux minutes.
« Vous ne pouvez pas venir avec moi, »
dit-il.
« Pourquoi ? Ce serait un péché. »
« Ce ne peut être un péché, car je n'ai jamais voulu commettre un péché de ma vie. Et ce n'est pas maintenant que je voudrais commencer, moi qui tous les jours demande à mourir et à partir là-haut, loin de ma misère. »
« Mais Emmeline, c'est mal tout de même. C'est mal de se sauver du feu qui vous brûle ?»«
En tout cas, ça semblerait mal dans notre cas. »
« Oh, Halloween, Halloween, prenez-moi, je vous en supplie, »
s'écria-t-elle.
« Oui, en principe, ce ne serait pas bien. » Mais dans une circonstance aussi exceptionnelle.
Pourquoi un tel châtiment m'est-il infligé ?
Je ne faisais aucun mal, je ne nuisais à personne, je secourais bien des gens, je m'attendais au bonheur et c'est le malheur qui est venu. Se peut-il que Dieu fasse de moi un objet de risée ?
Ah, je n'avais aucun soutien, la victime m'était toute prête, et maintenant la vie est pour moi un fardeau, une honte.
Oh, si vous saviez le prix pour moi de la supplication que je vous adresse ! Combien ma vie y est suspendue, vous n'auriez pas le courage de la repousser.
Ce que vous dites est insoutenable, répondit-il en gémissant.
Le ciel est notre commun support, Amy. Vous êtes la duchesse de Hamptonshire, la femme du duc de Hamptonshire. Vous ne devez pas partir avec moi.
Alors vous me repoussez.
Oh, vous me repoussez,
s'écria-t-elle dans un accès de frénésie.
Halloween, Halloween, est-ce bien vous qui me dites cela ?
« Oui, c'est moi, mon cher, mon tendre cœur, et je suis désolé de vous le dire. Vous ne devez pas partir.
Oubliez-moi, car je ne peux que vous refuser. Vivant ou mort, nous ne pouvons fuir ensemble. La loi divine nous le défend. Adieu, pour toujours et pour jamais. »
Il se retourna, et sortant en hâte du bosquet, il s'évanouit dans l'ombre du taillis. 3 jours après cette rencontre et ses adieux, Halloween, dont les traits fins et le beau visage avaient pris une expression de dureté farouche, que 10 ans de fatigue et de larmes sur la terre auraient pu à peine leur donner, s'embarqua à Plymouth, par une matinée brumeuse, sur le paquebot Western Glory. Mais la terre eut disparu derrière lui, il s'imposa de lui-même la tâche de son éducation pour conquérir le stoïcisme nécessaire. Cet effort soutenu par l'énergie morale qui lui avait permis de résister à la tentation que lui avait fait subir la confiance téméraire d'Emmeline, ne furent pas sans succès, bien que le bruissement des flots sur lesquels tous les jours ses yeux restaient fixés semblât se faire l'écho d'une voix bien connue. Il se forgeait pendant sa traversée des règles de conduite pour parvenir à atténuer les mouvements de regret fiévreux qui venaient l'assaillir et l'agiter quand il s'abandonnait à la vision de ce qui aurait pu être s'il n'avait pas écouté l'appel de sa conscience. Il s'absorbait de longues heures chaque jour dans la lecture de livres de philosophie qu'il avait emporté avec lui, ne s'accordant de temps à autre que quelques minutes pour penser à Emmeline, usant ainsi, quoiqu'à contre-cœur, d'une parcimonie digne d'un disciple d'Épicure, dosant la boisson cause de son mal.
le voyage fut marqué des incidents ordinaires d'une traversée à cette époque, une tempête, du temps calme, un homme tombé à l'eau, une naissance, un service funèbre. Il eut même, dans ce dernier cas, comme étant le seul ecclésiastique à bord, à célébrer l'office et à lire les prières rituelles. Le bateau arriva à Boston au commencement du mois suivant, et il se rendit de là à Providence à la recherche d'un parent éloigné. Après un court séjour en cet endroit, il revint à Boston, et là, les sérieuses occupations auxquelles il s'adonna eurent le pouvoir de dissiper, dans une large mesure, la terrible mélancolie dans laquelle il était encore plongé. Ses récentes épreuves l'avaient troublé et affaibli, et il se sentit incapable, pour un certain temps, de remplir ses fonctions ecclésiastiques. Il parvint alors à obtenir une chaire dans une école. Quelques lettres d'introduction, à lui remises avant son départ, lui furent des plus utiles et il eut bientôt acquis la réputation d'un gentleman et d'un professeur distingué auprès de l'administration d'un des collèges de l'endroit. D'où son départ de l'école et son installation au dit collège en qualité de professeur de rhétorique et d'art oratoire. C'est ainsi qu'il vécut, s'appliquant uniquement, comme sa conscience le lui dictait, à faire son devoir. Les soirées d'hiver, il les occupait à façonner des sonnets et des élégies, exhalant ses pensées dans ses vers à une infortunée lady, et les soirs d'été, aux mêmes heures, il se plaisait à observer l'ombre grandissante et à la comparer aux ténèbres de sa vie. S'il se promenait, il recherchait les quartiers de l'Est en pensant à l'immense espace de la mer et à ce que lui dérobait l'horizon. En un mot, à tous ces moments perdus, il rêvait à celle qui n'était qu'un souvenir pour lui et qui ne serait probablement jamais davantage. 9 ans s'écoulèrent ainsi, et les épreuves et les larmes avaient effacé bien des signes attrayants de sa beauté d'autrefois. Il était bon pour ses élèves, affable vis-à-vis de tous ceux qui l'approchaient, mais le trésor de sa vie, son grand secret, sa bouche muette le tenait jalousement emprisonné. En parlant à ses amis de l'Angleterre et de sa vie là-bas, il taisait l'épisode d'Emeline et de Batten Castle, comme s'il n'avait eu aucune place dans sa mémoire. Malgré son importance, il n'avait en fait occupé que de courts instants de sa vie, quelques parcelles d'un temps exceptionnel qui, à pareille distance, fussent devenues pour lui imperceptibles s'il ne les eût enchâssées dans son souvenir. Or, à cette date, un jour, parcourant en hâte un vieux journal anglais, il tomba sur un paragraphe qui, dans sa brièveté, valait pour lui des termes complets d'informations sensationnelles et vibrait d'un rythme plus passionné que toutes les poésies du monde réunies. C'était l'annonce de la mort du duc de Hamptonshire, laissant une veuve sans enfant. Le cours des pensées d'Halloween fut complètement changé. En inspectant de nouveau le journal, il s'aperçut qu'il était bien ancien et avait été négligemment jeté de côté. Sans ce hasard qui lui avait fait jeter les yeux dans son cabinet sur de vieux numéros abandonnés, il aurait pu ne connaître l'événement qu'après bien des années. Il y avait alors 7 mois que le duc était mort. Halloween ne se sentit plus le cœur à s'attarder au mécanisme de l'antithèse, de la gradation, de la synecdoche, rempli comme il l'était d'échantillons spontanés de toute cette rhétorique qu'il n'osait déployer. Qui s'étonnera que son esprit se soit livré alors tout entier à ce rêve d'un doux espoir réalisable après tant d'années? Car Emeline était toujours sur la terre son unique amour. Le résultat de sa silencieuse extase fut le parti qu'il prit de revenir vers elle au plus vite. Mais il ne pouvait pas brusquement abandonner ses fonctions. En fait, il ne pouvait s'en libérer que dans 4 mois. Mais, quoique continuellement en proie à une impatience douloureuse, il se répétait chaque jour « Si elle a continué à m'aimer pendant 9 ans, elle m'aimera bien pendant 10. Elle pensera à moi encore plus tendrement quand les présentes heures de solitude auront exercé sur elle leur influence. Le temps d'autrefois renaîtra avec la fin de sa récente épreuve et chaque jour écoulé favorisera mon retour. » Ce délai forcé passa vite. Il arriva en Angleterre au temps voulu et atteignit le village de Batten un certain jour d'hiver, environ 12 ou 13 mois après la mort du duc. C'était le soir, mais telle était l'impatience d'Halloween qu'il ne put s'interdire de revoir, dès ce soir même, le château dont il y avait 10 ans, Emeline, l'infortunée duchesse, avait franchi le seuil. Il dépassa la futaie du parc, jeta en passant un regard sur la silhouette bien connue du château qui se dressait encore visible dans le crépuscule, et fut bientôt intriguée en voyant toute une foule joyeuse de paysans, par groupes de deux ou trois, marchant devant ou derrière lui dans l'avenue vers la porte cochère du château. Se sachant dans l'impossibilité d'être reconnu, Halloween demanda à un des piétons ce qui se passait. Sa grâce donne un bal ce soir à ses tenanciers pour conserver la vieille coutume du duc et de son père, avant lui, à laquelle elle ne veut rien changer. Oui, et est-ce qu'elle vit entièrement seule depuis la mort du duc ? Entièrement seule. Mais bien qu'elle-même ne reçoive pas de visite, elle désire que la population du village se réjouisse, et elle l'invite souvent ici. Bon cœur, comme toujours, pensa Halloween. Arrivé au château, il constata que les grandes portes marchandes étaient largement ouvertes, comme si l'on n'eût dû jamais les refermer, que les entrées et les pièces de l'aile étaient brillamment éclairées, que de nombreux lustres, les gouttes de chandelles coulaient sur les feuillages verts dont ils étaient décorés, et aussi sur les robes de soie des joyeuses épouses des fermiers passant en dessous aux bras de leurs époux. Halloween ne trouva aucun obstacle à son entrée avec les autres, le château étant ce soir-là la place de la liberté. Il se tint sans être remarqué dans l'angle d'une vaste pièce où on commençait à danser. « Sa grâce, dit quelqu'un, bien qu'à peine sorti de son deuil, descendra sûrement et ouvrir la danse avec le voisin Bates. »« Qui est le voisin Bates ?» demanda Halloween. « Un vieil homme qu'elle honore beaucoup, le plus vieux de ses tenanciers. Il a eu 78 ans dernièrement. »« Ah, c'est vrai, dit Halloween soulagé, je me rappelle. » Les danseurs se mirent en ligne et attendirent. Une porte s'ouvrit à l'extrémité de la salle et une lady en soie noire fit son entrée. « Quelle est cette lady ?» demanda Halloween d'une voix tremblante. « C'est la duchesse, lui répondit-on. « Alors, il y en a une autre ?»« Non, il n'y en a pas d'autre. »« Mais ce n'est pas la duchesse de Hamptonshire qui, d'habitude... » La langue d'Halloween lui heurtait le gosier. Il ne pouvait en dire davantage. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda son interlocuteur. Halloween s'était reculé et s'appuyait contre le mur. Le malheureux Halloween allégua un point de côté qui l'empêchait de marcher. La musique éclata, la danse commença et son voisin prenait tant d'intérêt au mouvement de cette autre duchesse dans le dédale des figures qu'il en oublia Halloween un certain temps. Celui-ci en profita pour s'esquiver. Il avait déjà souffert, le pauvre homme, et il avait à souffrir encore. « Comment cette personne est-elle devenue votre duchesse ? » demanda-t-il d'une voix ferme et distincte quand il eut recouvré complètement son sang-froid. « Où est l'autre grâce de Hamptonshire ? » Il y en avait certainement une autre, j'en suis sûr. Oh, l'ancienne, oui, oui. Elle est partie depuis des années avec le jeune vicaire. Le jeune homme s'appelait Mr. Hill, si je me souviens bien. Non, elle n'a jamais fait ça. À quoi donc pensez-vous? Mais si, elle est certainement partie. Elle se rencontra avec le vicaire dans le bosquet 2 mois à peine après son mariage avec le duc. Il y a des gens qui les ont vus ensemble et ont entendu quelques mots échangés entre eux. Ils ont organisé leur départ et elle s'est embarquée à Plymouth avec lui 1 ou 2 jours après. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le mensonge le plus baroque qu'on ait jamais fait. Son père avait pensé, au moment de sa mort, qu'elle était partie avec le vicaire, et le duc de même, et tout le monde ici. Le duc a suivi sa trace jusqu'à Plymouth. Suivi jusqu'à Plymouth? Il a suivi sa trace jusqu'à Plymouth, et y a dépêché ses espions. On a découvert qu'elle s'était adressée à l'agence maritime, lui demandant si Mr. Alwyn Hill s'était inscrit comme passager sur la Western Glory, et que lorsqu'elle l'eut appris, elle se fit inscrire sur le même livre de bord, mais sous un nom supposé. Le bateau était parti quand une lettre d'elle parvint au duc, lui avouant ce qu'elle avait fait. Elle n'est jamais revenue. Le duc vécut seul pendant plusieurs années, puis épousa la seconde lady 1 an avant de mourir lui-même. Halloween était dans un état de stupéfaction indescriptible. Mais énervé comme il l'était, il osa se présenter le lendemain à celle qui, pour lui, était une fausse duchesse de Hamptonshire. Alarmée de son attitude, la lady fut d'abord réservée, mais elle se laissa gagner à la pitié de son aventure et finit par lui rendre confidence pour confidence. Elle lui montra une lettre, trouvée dans les papiers du feu-duc, qui corroborait l'information fournie à Halloween. C'était une lettre d'Emeline, le cachet de la poste portant la date à laquelle la Western Glory avait pris la mer. Elle disait en quelques mots qu'elle était partie sur ce bateau pour l'Amérique. Halloween se dévoua corps et âme à débrouiller le reste de l'énigme. L'histoire qu'on lui répétait était toujours la même, elle est partie avec le vicaire. Un renseignement étrangement significatif vint renforcer son enquête quand il eut poussé un peu plus loin. on lui fournit le nom d'un marin de Plymouth qui, au moment où elle avait disparu et était recherchée par son mari, s'était présenté pour déclarer qu'il l'avait mise à bord de la Western Glory à la nuit tombante la veille du départ. Après plusieurs jours de recherche dans les ruelles et sur les quais de Plymouth Barbican, pendant lesquels la phrase impossible « elle est partie avec le vicaire » commençait à s'incruster dans son cerveau, Alwyn finit par découvrir cet important témoin. Il confirma la sincérité de son témoignage sur des faits dont il se souvenait parfaitement. Il donnait les détails des vêtements de la lady comme il les avait depuis longtemps décrits au mari. Ils ressemblaient en tout point à ceux portés par Emmeline le soir de leur séparation. Avant de franchir l'Atlantique pour continuer là-bas ses investigations, le pauvre Alwyn, déconcerté et bouleversé, s'occupa de se procurer l'adresse du capitaine Wheeler, qui avait commandé la Western Glory durant l'année de son départ, et lui écrivit immédiatement une lettre à ce sujet. Les seules circonstances que le capitaine avait pu retrouver ou découvrir dans les papiers se rapportant à cette affaire étaient qu'une femme portant le nom qu'Alwyn avait indiqué comme fictif avait certainement pris passage à bord lors de son voyage à cette époque, qu'elle s'était mise dans une chambre commune avec les plus pauvres émigrants, qu'elle était morte en route 5 jours environ après le départ de Plymouth, qu'elle avait l'air d'une lady pour les manières et l'éducation. Pourquoi elle n'avait pas pris un passage de première classe? Pourquoi n'avait-elle pas de bagages? Personne ne pouvait le savoir, car si elle possédait peu d'argent en poche, son extérieur témoignait hautement qu'elle ne manquait de rien. « Nous l'avons mise à la mer, » continua le capitaine. Un jeune ecclésiastique passager de cabine a célébré le service funèbre. Je m'en souviens bien. En un moment, toute la scène, avec tous ses détails, ressuscita dans le souvenir d'Alwyn. On naviguait par une belle et fraîche matinée. On se savait marchant à 100 et quelques milles par jour. On apprit qu'une des pauvres jeunes femmes de l'autre côté du bateau avait la fièvre et le délire. La nouvelle ne causa pas une mince alarme parmi les passagers, car les conditions sanitaires du bateau n'étaient rien moins que satisfaisantes. Bientôt après, le docteur annonça qu'elle était morte. Alwyn apprit alors qu'on se proposait de la mettre à la mer en grande hâte, à cause du danger que pourrait causer un retard. Et aussitôt, la funèbre cérémonie se représenta à lui avec la part éminente qu'il avait prise à sa célébration. Le capitaine était venu lui demander d'officier, n'ayant pas de chapelain à bord. Il avait consenti, et en face du soleil couchant, il avait lu ses prières devant l'équipage assemblé. « Nous livrons aujourd'hui son corps à tes abîmes, pour s'y corrompre en attendant sa résurrection quand la mer le rendra au rivage. » Le capitaine avait envoyé les adresses de la surveillante du bateau et des marins engagés à bord. Alwyn alla les trouver par la suite. La description détaillée des vêtements de la fugitive, la couleur de ses cheveux et tout le reste réduisit pour jamais à rien tout espoir d'erreur sur son identité. En fin de compte, tout finit par s'expliquer clairement. Dans cette malheureuse soirée où il se sépara d'Emmeline dans le bosquet, lui défendant de le suivre parce que ce serait là un péché, elle lui avait désobéi. Elle avait dû marcher silencieusement sur ses pas dans l'ombre, comme une pauvre petite bête choyée qui ne veut pas qu'on la repousse. N'ayant pu réunir pour le voyage rien de plus que ce qu'elle avait sur elle, c'est dans cet état de détresse qu'elle avait dû s'embarquer. Son intention avait dû être sans doute de lui révéler sa présence à bord sitôt qu'elle aurait eu le courage de le faire. C'est ainsi que fut clos pour Alwyn Hill le roman de ses 10 années. Jamais le public ne sut que la pauvre voyageuse de dernière classe avait été la jeune duchesse de Hamptonshire. Hill n'avait aucune raison de rester en Angleterre, et peu de temps après, il en quitta les rivages sans aucune pensée de retour. Avant son départ, il confia cette histoire à un vieil ami de son pays natal, au grand-père de celui qui vous la conte aujourd'hui. Ainsi s'achève La Duchesse de Hamptonshire de Thomas Hardy.